comme une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghettos, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever de nos oeographies psychiatriques qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir.
L'hétérosexualité
au Sénégal
est aussi naturelle que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Salut, salut, c'est On n'est pas des cadeaux, bienvenue, et cette semaine, est-ce que vous m'entendez? Ouais, cette semaine, on vous propose une petite sélection de sons pour vous donner envie de découvrir podcasts, créations, reportages et émissions diffusées sur les ondes ou trouvées sur le net. Et on commence avec un reportage qui s'appelle « Être femme et gay au Sénégal, les lesbiennes cherchent leur place ». C'est un reportage qui a été diffusé sur RFI en juin 2017, qui est un petit peu vieux, enfin qui n'est pas tout nouveau, mais qui avait été aussi nominé l'année dernière, dans les Outdoors. La Outdoors, c'est la récompense pour les contributions à la visibilité des personnes LGBTI. On écoute.
Comme dans beaucoup de pays, l'homosexualité est un sujet tabou. Les relations entre personnes de même sexe sont illégales. La loi reflète la culture et la religion qui considèrent l'homosexualité comme un affront à l'ordre social. Il existe malgré tout plusieurs associations homosexuelles au Sénégal, souvent organisées autour de la lutte contre le sida, mais elles sont masculines. Les lesbiennes ont donc bien du mal à trouver leur place, non seulement dans la société qui les rejette, mais aussi au sein du monde associatif. Être femme et homosexuelle au Sénégal, les lesbiennes cherchent leur place, un grand reportage signé Sarah Elsass.
Dans un hôtel au bord de la mer, plusieurs kilomètres au sud de Dakar, un groupe de femmes joue au billard. Elles viennent juste de finir de déjeuner. Sur les tables restent des plats communs de Tchaboudienne, du riz au poisson, le plat national du Sénégal. Cette scène n'a rien d'extraordinaire, mais pour ces femmes, c'est un grand moment de détente.
On fait ce qu'on veut ici. Ici, on est libre. On s'épanouit.
Nash a 27 ans. Elle est là avec ce groupe pour un atelier organisé par une association de droits de femmes LGBT.
Nous sommes les filles. Nous sommes les garçons.
Ici, elles peuvent assumer ouvertement qui elles sont. Des femmes qui aiment les femmes, sans peur de représailles.
Entre nous, on sait pas. Vous voulez en voir ça chaque week-end.
Nash, ce n'est pas son vrai nom. Comme toutes les personnes homosexuelles interviewées pour ce reportage, elle a demandé à rester anonyme, pour des raisons de sécurité. Même pour arriver ici à l'hôtel, il fallait prendre des mesures, comme l'explique Ndeye Kebe, la présidente de Sourire de Femmes, l'association de femmes lesbiennes qui a organisé cet atelier.
Vous avez remarqué que durant tout ce transport, nous n'avions que deux taxis pour une question de sécurité. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à ta démarche, à ton habillement, à ta coiffure, à tes paroles. Donc on ne sait plus à quoi il faut faire attention et à quoi il ne faut plus faire attention.
Ndeye Kebe est habillée en robe bleu clair, un foulard assorti noué sur sa tête. Nash est coiffée avec des longues tresses collées. Elle est en jean, chemise blanche, mais si elle avait le choix, elle porterait autre chose.
Je serais habillée en homme tout le temps. Costume cravate avec des dreadlocks, tout ça.
Nash a une copine. Sa famille ne le sait pas. Elle ne se voit pas souvent et quand ça arrive, ça doit être organisé longtemps d'avance.
On est obligé de programmer ça 2 mois, 3 mois pour trouver un endroit. Des fois, c'est ton ami qui te prête sa chambre pour une journée. Des fois, tu vas prendre un appartement. Et c'est pas sûr à 100%.
Nabou vit à Dakar, mais elle vient d'une petite ville au sud du pays. Là-bas, dit-elle, c'est encore plus difficile de vivre en tant que personne homosexuelle, même cachée.
Là-bas, c'est trop petit. Tout le monde se connaît. On se voit, mais on ne vit pas ça. Ça va bien, tu pars, l'autre part. Rien d'autre.
Mais même à Dakar, Nabou est plus focalisée sur ses études que sur les rencontres.
Quand j'ai le temps, je sors avec eux, mais je préfère étudier après... Travailler et d'autres choses quoi, en tête. Parce que je ne veux pas que, à l'avenir, que j'ai toujours besoin de mes parents pour survivre ou quoi.
Car la peur d'être découverte, la peur du rejet par la famille est plus qu'une question d'affection. C'est une question de survie. Les femmes particulièrement dépendent beaucoup de leur famille financièrement. Nash considère qu'elle n'a pas le choix. Elle a fait des études de droit mais n'a pas encore trouvé de travail. Elle vit toujours chez ses parents qui la soutiennent.
Moi, on m'a dit, tiens, je ne peux pas avoir cette charge sur moi, que j'arrive même pas à satisfaire. Quoi. Voilà. Et la fille, si elle est rejetée, le premier jour où elle passera la nuit d'or, elle risque d'être agressée, violée.
Mais être indépendante ne règle pas tout. Les menaces restent toujours présentes, comme le sait bien Chouchou, une petite femme aux cheveux courts. Elle a travaillé dans la communication.
On m'a limogé à cause de ça, parce que le directeur avait su que je suis lesbienne et puis il a dit que j'influence les autres.
Aujourd'hui, elle a un pansement à un doigt de la main gauche. Elle raconte ce qui s'est passé.
C'était un mec en blanc qui courait derrière moi, qui voulait sortir avec moi. J'ai refusé. Il se posait des questions. Il dit que comment se fait-il que il me demande de coucher avec lui. Je refuse, donc moi, je suis lesbienne. Un coup, il parlait de ça et puis il est venu me voir dans ma chambre, défoncer la porte, prendre ma bouteille de gaz et me faire des coups. Jusqu'à ce que mon bras là, j'ai failli perdre mon doigt.
Elle est allée à la police et a porté plainte. C'est une situation qui aurait pu arriver à n'importe quelle femme qui refuse l'avance d'un homme. Mais Chouchou dit que pour les femmes lesbiennes, ça arrive encore plus souvent.
Surtout nous, les LGBTI, on a souvent ce genre de problèmes. Nous, on a tout le temps des problèmes. Mais je crois en moi. Il faut avoir la confiance en soi.
Cette confiance en soi n'est pas facile à trouver dans un tel contexte. Elle peut se construire à travers de rencontres, dans des associations. Mais l'existence d'associations d'homosexuels est relativement récente au Sénégal. Et c'est encore plus récent qu'il y a une place pour les femmes. Les associations sont nées au cours des années 2000, quand se développait une sorte de reconnaissance officielle des personnes homosexuelles dans le contexte de la lutte contre le sida. Mais cela avait à voir plutôt avec les hommes. Aujourd'hui, un peu moins de 20% des hommes homosexuels sénégalais sont infectés par le VIH. C'est un taux beaucoup plus élevé que dans la population générale. Par des politiques offensives de prévention de risque, le Sénégal a réussi à baisser le taux de VIH en dessous de 1%. Mais il reste plus élevé parmi les populations dites vulnérables, les prostituées, les utilisateurs de drogues injectables et les hommes homosexuels. À l'hôpital général de Kaolack, une ville à 4 heures de route de Dakar, Medoun Kone est installé derrière son bureau. Il est le président de l'association des personnes vivant avec le VIH-SIDA, Bokulep. Quand il a fondé en 2003, il s'est très vite rendu compte qu'il fallait s'adresser aux homosexuels, aussi appelés les MSM, les hommes qui couchent avec les hommes.
Le problème du VIH, on ne peut pas le régler en laissant en rade les MSM. Parce que c'est des personnes qui sont des femmes dans la population, on ne va pas les laisser en rade. Aujourd'hui, toutes les activités que nous faisons, on les a priorisées. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de les identifier, de les accompagner, de les sensibiliser pour que ces gens soient des personnes responsables.
Kone a donc encouragé des hommes homosexuels à s'organiser pour en encourager d'autres à se faire dépister et traiter. D'autres associations de lutte contre le sida ont fait pareil ailleurs. Et c'est comme ça que Jamil Bangoura est venu à fonder Prudence, la toute première association LGBT dans le pays.
Ça étonne beaucoup des gens parce que quand on parle d'une organisation LGBT au Sénégal, mais comment ça? Ce n'était pas facile. Mais l'État, à l'époque, ils ont été vraiment compréhensifs parce que la plupart de nos objectifs par l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH.
En revanche, en faisant sortir les hommes homosexuels de l'ombre pour se faire dépister pour le sida, on leur a donné plus de visibilité dans la société, qui a réagi assez violemment. À partir de 2008, plusieurs affaires ont mis le sujet sur la place publique. En février de cette année, un magazine a publié des photos de ce qu'il a appelé un mariage gay. La police a arrêté plusieurs personnes qui figuraient sur ces photos. Elles ont été relâchées par la suite, mais l'affaire a été marquante. Les groupes religieux ont commencé à beaucoup parler de l'homosexualité. Les personnes homosexuelles sont devenues des cibles, attaquées dans la rue, dénoncées à la police.
La police est venue chez moi, c'était vers 18h-19h. Ils ont sonné, j'ai ouvert la porte et on m'a demandé mon nom, j'ai dit mon nom.
Diadji Diouf raconte ce qui s'est passé le 19 décembre 2008.
On m'a dit carrément qu'on nous a dit que tu es homo. Je dis mais c'est quoi cette question-là? Et même si j'étais homo, dans mon appartement, c'est quoi le problème? On nous a dit que tu n'as pas le droit de nous répondre comme ça. On est au Sénégal, donc des gens comme vous n'ont pas le droit de parler. Donc c'est là où tout a commencé. Il y a les manottes, les insultes, les coups de matraque, tout ça.
Diouf était et est toujours le président de AIDS Sénégal, une association qu'il a fondée 2 ans avant. La police l'a arrêté avec 8 autres personnes qui étaient dans l'appartement avec lui ce soir-là. Il a été jugé et condamné pour acte contre nature. C'est ainsi que la loi pénale définit les actes homosexuels. Diouf a été condamné à une peine de 8 ans de prison. Il n'a fait que 4 mois, mais ces 4 mois ont été éprouvants, le poussant à être plus militant. D'autres événements ont suivi, d'autres arrestations, une exhumation forcée d'un corps d'un homme homosexuel, des affaires mises en avant par des journaux à sensation. Et les imams ont commencé à prêcher fermement contre l'homosexualité. La mosquée Pointe-E, dans le quartier de Dakar du même nom, n'est pas loin de l'université. À l'heure de la prière, des hommes arrivent de tous les côtés. Certaines arrêtent leur taxi devant la mosquée, d'autres arrivent à pied. Amadou Maktar Kanté est l'un des imams ici. Il dit qu'avant la crise du sida, le sujet de l'homosexualité n'était pas tellement abordé par les religieux.
C'est le sida qui a remis à la scène la question homosexuelle.
Il a un discours un peu plus modéré que la plupart de ses collègues. Il a beaucoup parlé du sida et de la prévention, quand d'autres imams se sont focalisés sur la morale.
Les religions ont commencé à dire que ce n'est pas juste une question d'arrêter la propagation du sida, c'est un modèle moral que nous voulons défendre. Nous sommes contre tout ce qui valorise l'homosexualité et le multipartenariat sexuel, etc., etc.
L'imam Kanté est d'accord pour dire qu'il y a un modèle moral à défendre, mais son approche est différente.
En tant qu'imam, je défends le modèle de famille avec un homme et une femme. Mais moi je dis que sur le principe, l'islam accepte le fait que chaque personne humaine dispose du libre arbitre et prend ses responsabilités. Donc ceux qui considèrent que tout le monde doit faire la même chose se trompent.
Mais il y a aussi cette idée aussi, c'est les Européens qui nous ont amené l'homosexualité.
Alors que c'est faux, c'est faux. Ce que l'Europe a amené, c'est la modernité et la loi. Donc le fait d'inscrire dans une loi publique que tel comportement est autorisé. Et c'est là où nous, on s'est battu quand même, en se disant qu'une loi amena des conséquences terribles pour nous, sur l'ordre public et sur le modèle familial.
Pour lui, l'Europe essaye d'exporter les lois permettant le mariage homosexuel. Mais pour le sociologue Cheikh Ibrahima Niang, l'influence des Européens n'est pas là où on croit.
Les lois contre l'homosexualité sont héritées de la colonisation. On n'a pas idée que dans les systèmes précoloniaux, on puisse mettre des homosexuels en prison. Donc la mise en prison des homosexuels est directement héritée de la colonisation.
Le professeur Niang explique que l'homosexualité a toujours existé au Sénégal. Les textes les plus anciens font référence au Gourjigen, qui veut dire homme-femme en Wolof, la langue principale dans le pays.
Les Gourjigen avaient des rôles sociaux reconnus, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la danse, dans la cosmétique, qui ont des rôles reconnus, acceptés, assumés en tant que tels. après ça a changé. Je pense que ceci est en rapport avec le pouvoir politique des femmes.
Un pouvoir qui, selon le sociologue, existait dans l'époque précoloniale, mais qui s'est érodé depuis.
Elles ne vont pas réoccuper le même poste et les homosexuels vont voir leur sécurité s'effriter.
Mdeye Kebe, la présidente de Sourire de Femmes, l'association des femmes lesbiennes, se préoccupe de ces droits. Elle explique que les femmes sont laissées de côté dans les associations d'homosexuels qui luttent contre le sida, car elles ne sont pas considérées comme une population vulnérable. En effet, les femmes lesbiennes et hétérosexuelles au Sénégal ont le même taux d'infection du sida.
Et du coup, on ne les prend pas en charge dans les programmes de VIH, mais aussi dans les programmes de santé, dans aucun programme de santé ou aucun programme de développement, ou tout simplement de femmes. Certaines structures de femmes ne veulent pas toucher à l'homosexualité. Les femmes hétéros ne veulent pas entendre parler des femmes homo et ne veulent pas les mettre dans leur fédération ou dans leur réseau.
Ce qui, pour elles, n'a aucun sens. Elles militent toutes pour les mêmes droits.
On ne peut pas être lesbienne sans être féministe. Donc, nous sommes en train de nous combattre pour le droit de la femme. Nous nous battons, par exemple, sur le droit à l'avortement, le droit à l'accès à la terre, le droit à l'héritage. Si la terre appartient à l'homme, vous cultivez, vous le nourrissez, mais vous n'avez aucun revenu, vous n'avez aucune économie. Les femmes n'ont pas beaucoup d'économie ici au Sénégal.
Si tu as les moyens et que tu prends ton logement et que tu es indépendant, tu ne demandes rien à personne et que tu contribues à la famille, on ne regarde pas de trop près ce que tu dis.
Fifi, une activiste lesbienne qui a presque 50 ans, vit seule depuis l'âge de 21 ans, après avoir rompu avec sa famille.
J'avais des tendances plutôt hommes. À très jeune âge, je jouais le football, ce qui n'était pas vu. Ils disaient que je fais honte, donc pour ne pas faire trop honte, donc ils ont décidé de me donner à un de mes cousins. Donc j'ai eu à être mariée à 14 ans.
À l'époque, elle n'avait pas bien compris qu'elle aimait les femmes, mais elle savait qu'elle n'aimait pas toucher son mari.
Même si mon mari voulait me faire la mort, là, il fallait attraper mes pieds. Hein. Chaque fois, c'était un slip déchiré, on se battait, c'était du viol. Donc pendant des années, je me battais pour quelque chose que je ne connaissais pas. Hein. J'aimais pas qu'il me touche, mais je ne savais pas le pourquoi, mais je n'avais pas envie du tout. À 20 ans, j'avais... Non, 21 ans précisément, qu'on a divorcé. C'est comme ça, à 21 ans, je vivais indépendant. C'est après des années, à 24-25, que j'ai commencé à découvrir ma sexualité. En ce moment-là, j'étais beaucoup plus jolie parce que j'étais épanouie.
Elle était épanouie et elle vivait ça bien. Pendant longtemps, les femmes lesbiennes passaient relativement inaperçues. Mais en novembre 2013, 5 femmes, membres de l'association Sourire de Femmes, qui célébraient un anniversaire à un restaurant à Dakar, ont été arrêtées, accusées d'être lesbiennes. Une autre affaire qui a été médiatisée. Fifi dit que depuis, la situation s'est dégradée.
Les gens ont commencé à regarder d'un œil péjoratif. Ils ont dit, ah oui, il y a des femmes homosexuelles et maintenant ça commence un peu compliqué.
Il y avait des propos cruels, comme c'était des animaux, ils ne méritent pas de vivre. Il y a d'autres qui disent, si je vois une lesbienne, je vais la violer. Je vais tellement la violer qu'après, il ne voudra plus de filles.
Tels étaient les propos lors d'une présentation qu'a fait Dija à l'école en 2016.
J'ai fait un exposé sur ça à l'école parce que je voyais dans l'internet et dans les médias que il y avait certaines homophobies. Donc moi, je me suis dit, attends, je vais prendre ce sujet. Mais franchement, j'étais choquée parce que la réaction des gens, c'était au fait que je ne m'attendais pas à ça.
C'était aussi au moment où elle découvrait qu'elle-même aimait les filles. Aujourd'hui, elle vit à Dakar, loin de sa famille, qui ne connaît rien de son orientation sexuelle.
Ouais, ici, chez là où j'habite. Là, c'est l'espace familial.
Dija loue une chambre dans un appartement d'une autre famille. À travers la grande salle principale, à côté de la cuisine, elle a sa propre chambre. La famille ne sait rien sur elle. Elle vit de ses économies et pense pouvoir tenir 6 mois. Elle cherche du travail pour payer le loyer, mais aussi pour éviter le regard des autres, surtout puisqu'elle ne compte pas se marier.
Ici, le stress des femmes, c'est de trouver un mari. Quand est-ce que tu te maries? Tu te maries pas? Tout le temps les mêmes questions. Donc c'est ça, la femme c'est la maison, le ménage, les enfants, le mari, c'est ça.
Mais quand elle passe du temps dans les locaux d'une association LGBT, c'est elle, la femme dans le groupe, qui prépare à manger.
Personnellement, ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude de cuisiner pour ma famille, donc ça ne me dérange pas de le faire.
Ces rôles de sexe se retrouvent aussi au sein des couples homosexuels.
Ici au Sénégal, les lesbiennes, toujours, il y a des sexy et des jump. Les sexy, c'est les filles coquettes qui font des make-up, des maquillages, portent des petites jupes. Et les jump, ce sont comme moi, portent des t-shirts, pantalons, basket. Et elles ont tendance à dire, c'est mon mari. C'est mon copain.
Nafi a 23 ans. Elle dit qu'elle se comporte comme un homme.
Je me sens homme, je fais des choses comme les hommes. Je vis avec ma copine. On est comme mari et femme. Le matin, elle me fait du thé. C'est elle qui me donne la serviette. Elle prépare la chambre, le salon. Après, elle va aller au marché, venir faire le repas. Moi, je fais rien. C'est elle qui fait tout. On est comme un vrai couple. Hein.
Ça existe peu de couples lesbiennes qui se disent nous sommes deux femmes. C'est toujours, il y a un homme, une femme. Il y a un dominant et une dominée. Ça, c'est peut-être la culture, l'éducation, ce qu'on nous a mis dans la tête, etc. Ce qui fait que le système patriarcal se reproduit.
Ndeye Kebe, la présidente de l'association Sourire de Femmes, dont Nafi fait partie, parle de la culture à laquelle il est difficile d'échapper, même pour les personnes marginalisées.
La culture, elle est fondamentale chez une personne. La culture, elle est ancrée. Si vous demandez à un Sénégalais ne mange pas de chibidjo, c'est un problème. Donc, mais nous pensons aussi que la culture, comme on le dit, c'est juste culturel. Il faut essayer de rebâtir les esprits, de prendre ce que la culture a de mieux et de l'exploiter. Et ce qu'il y a à parfaire dans la culture, essayons de le parfaire.
Être femme et gay au Sénégal, les lesbiennes cherchent leur place. C'était un grand reportage signé Sarah Elsass. Réalisation Sandrine Straram. Ce reportage a été produit avec le soutien du International Reporting Project.
On continue avec un genre de voix, c'est une création trouvée sur Arte Radio, réalisée par Judith Chetrit, qui parle de Pascal, qui transitionne à 49 ans, elle change de corps, elle change d'apparence, et reste un obstacle à surmonter, sa voix, encore bien trop masculine. Depuis plus d'un an, Pascal multiplie les exercices de diction et d'intonation chez une orthophoniste toulousaine. Une thérapie sonore est l'occasion de s'interroger sur... Est-ce que c'est une voix de femme ?
Tu montes un peu. Il va falloir que tu y mettes un tout petit peu plus de conviction, un peu plus de souffle en fait.
Ça va pas démarrer.
Mais ça ressemble trop à de la voix chantée, alors rien que ça, ça te fait peur, je sais.
Quand j'ai commencé à consulter, j'étais un peu perdu complètement, j'avais pas de repères, je sais pas vers quoi j'allais. Voilà, mais je sais qu'il fallait absolument que je quitte cette voix grave que j'avais de garçon renfermé sur moi. Et donc je partais un peu dans l'inconnu.
Quand j'ai vu arriver Pascal, c'était encore Pascal sans E, il s'est présenté comme tel. À la différence de beaucoup de mes patientes qui arrivent tout de suite dans leurs habits féminins. Et c'était quelqu'un qui avait l'air assez réservé dans sa posture, dans ses gestes. Vocalement, c'est pareil. On dit souvent que la voix, c'est le deuxième visage. Et en fait, c'est assez vrai. Il y avait une espèce de fermeture, un débit très rapide, avec des mots qui se bousculent, comme s'il fallait faire passer le message au plus vite.
Mais je ne sais pas pourquoi je n'aime pas cette voix et pourquoi je n'ai jamais aimé ma voix de garçon. Est-ce que c'était parce que effectivement j'étais pas dans le bon genre? Peut-être que c'est possible aussi, inconsciemment. Inconsciemment, j'ai tout rejeté en moi, même mon corps. Hein. Mon corps en tant que garçon, je l'ai jamais aimé. Hein. Donc ça me correspondait pas. Je n'avais pas forcément un corps de garçon. Et donc moi, ça a été très compliqué. Très compliqué à tout concilier, on va dire. Et maintenant, notamment au féminin, quoi. C'est pas évident.
On essaye un peu plus aigu, tu veux bien ? Joli. On va essayer d'écouter des voix. enregistrés. Et tu sais qu'on en avait fait et qu'on essaye de les qualifier et tu dis ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas dans telle ou telle voix. D'accord.
Afin de ne pas déranger vos voisins, nous vous prions de bien vouloir vérifier que vos téléphones portables sont éteints.
C'est une voix qui me ressemble. C'est une voix qui peut me ressembler, je pense.
Ah.
Celle-là, oui, parce qu'elle n'est pas très aiguë. Et puis, non, je pense que c'est une voix qui me plaît, celle-là, oui.
Elle te plaît parce qu'elle n'est pas très aiguë. Qu'est-ce qui te plaît d'autre?
Ça me paraît accessible, quoi, surtout ça. Parce que t'as des voix qui ne sont pas du tout accessibles, tu le sais, je le sais de suite. Tandis que celle-là, je sais que c'est une voix qui n'est pas accessible. Quand je fais des exos, oui, je sais que je peux me rapprocher de ça.
Ok. Est-ce que t'as, dans ton entourage, une voix sur laquelle tu pourrais t'appuyer? Une voix d'une copine ou de quelqu'un de ta famille? Non.
Pour le moment, non. La voix, en ce moment, pour moi, c'est l'obstacle pour aller vers les autres. Des fois, je dis, mais non, je ne vais pas aller vers ce groupe-là pour discuter parce que je vais me mettre en porte-à-faux. Et donc, voilà. Et je n'ai pas envie d'expliquer que je suis encore une transsexuelle, une personne qui fait une transition identitaire, je préfère ce mot. Cette transition, pour moi, elle a commencé, on va dire, en 2013, au cours d'une soirée.
Super. Attends, attends, tu vas la garder. Donc, tu fais...
Et tout simplement, ma copine de l'époque, qui était au courant plus ou moins de mes goûts féminins, mais elle ne m'avait jamais vu habillée en fille, et au cours de cette soirée-là, elle s'était entendue avec des autres amis pour me changer en fille, tout simplement, sans savoir les conséquences qu'il y aurait derrière. C'était peut-être, elle pensait, juste comme ça, une soirée où je pouvais m'habiller en fille, ça allait s'arrêter là. Et en fait, dans ma tête, non, ça ne s'est pas arrêté là, quoi. Je veux dire, ça a tout déclenché, quoi.
Tu te rappelles? T'essayes, tu prends la note qui te vient.
Il n'y a pas eu Pascal et Pascal après. Non, Pascal, je pense qu'elle est arrivée bien après. Il y a eu une phase intermédiaire qui s'appelait... Je m'appelais Sonia. Sonia, en fait, c'était la guerrière qui a lutté contre Pascal. Donc, ça avait deux personnes qui étaient en conflit, en moi-même. Donc, j'ai passé une période assez dangereuse, d'ailleurs, parce que je m'étais en danger. Voilà, le Pascal voulait toujours exister, donc comme un jeune homme, on prend des risques. Hein, des risques dans les sports mécaniques que je fais. Voilà. Et j'ai 49 ans, donc effectivement, à un moment donné, je mettais ma vie en danger. Quoi, donc il fallait prendre une résolution. Et pour moi, la résolution, c'était de faire mon changement d'identité totalement. Et là où je me suis complètement calmé, c'est à partir du traitement hormonal. Dès que le traitement hormonal... a commencé à agir en moi. J'avais plus ce côté masculin. C'était terminé. En 3 semaines, pour moi, c'était terminé. Donc, il n'y a plus de conflit. Pour moi, il n'y a plus de conflit. Il n'y avait que mon côté féminin qui ressortait. Et donc, à partir de là, j'ai pu avancer sérieusement vers ma transition. Quoi.
Vous avez des messages?
Je trouve qu'elle est moins aiguë que les autres, déjà. Et tout en restant féminine, quoi.
Ah oui, elle est très féminine.
Oui, bien sûr.
Là, on s'approche, tu sais, des voix très soufflées, presque à la Fanny Ardant.
Oui, ben un peu, voilà. Effectivement, c'est peut-être un peu hostile, effectivement, que de partir.
Vas-y, tu nous l'as fait. Vous avez des messages.
Vous avez des messages.
Il y a cette idée qu'une voix féminine doit être aiguë. Donc, souvent, ce que je fais au départ, c'est dire à la patiente qu'il y a plein d'autres choses. Et qu'elle va la découvrir, sa voix, elle va la trouver, et que ça ne va pas forcément passer par un travail très mécanique de placer sa voix dans les aigus.
On a des phases de doute, d'angoisse, on se dit mince, on ne va pas y arriver. Et puis c'est vrai que lorsqu'on regarde à la télé, on voit des personnes qui ont très bien réussi leur transition au niveau de la voix. Il faut se relever, c'est ce que je fais en ce moment, j'essaie de me relever, on va de l'avant, puis on va essayer de trouver cette petite voix, quoi, tout simplement, qui me correspondra. Parce que bon, ce qui peut faire mal, effectivement, vous essayez de parler au féminin au téléphone, et vous demandez un renseignement sur un service, n'importe quelle administration, puis à la fin, on vous dit « au revoir, monsieur ». Et donc, forcément, on se dit « mince, là, c'est pas bon ». Là, de suite, on a été jugé, et donc, on sait qu'on n'est pas encore bon. Voilà.
Une féminisation de voix, elle peut durer quelques mois, comme quelques années. Quand on est « male to female », on a un larynx masculin, une voix grave, une habitude de résonance très masculine. Et ça, c'est pas toujours évident de travailler toute seule. Un homme qui a envie d'appuyer son propos, il va le faire avec de l'intensité. Une fille qui a envie d'appuyer son propos, elle va le faire avec des variations de fréquence, en chantant beaucoup. Donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être modifiées chirurgicalement et qui doivent se travailler. Mais en réalité, comme dans toutes les prises en charge de voix, c'est une personne tout entière qu'on accueille et c'est vraiment un comportement tout entier qui doit changer. Ou en tout cas, qui doit s'ajuster.
Tu l'accroches bien derrière le nez et après tu laisses juste sortir tranquillement, mais en fait le son il doit quasiment pas bouger, tu vois.
Quand on entend une voix, c'est une évidence. On se dit, c'est une voix d'homme ou c'est une voix de femme. Si on essaye de mettre le doigt sur les paramètres qui font qu'on s'est dit c'est une voix d'homme ou une voix de femme, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il y a eu des études sur le sujet qui ont montré que la dynamique d'une voix de femme est beaucoup plus large, on utilise beaucoup plus de notes, on chante plus. Là, je parle même pas du vocabulaire qu'on emploie, parce qu'effectivement, on parle pas pareil, mais au niveau des paramètres acoustiques uniquement, il y a l'articulation féminine qui est souvent plus étirée, comme si on souriait plus en parlant. Il y a aussi l'allongement vocalique. On fait des voyelles plus longues. Voilà, on a tendance à traîner sur les mots.
Je fais un texte, si tu veux, une semaine. C'est « Oh, quelle est belle notre chance !» De placer le « O » au départ, ça m'aide. Que ça dire « Quelle est belle notre chance !» Et des fois, je « Oh, okay, je monte beaucoup plus haut. »
Oui, et ça t'aide à te caler.
Voilà. Des fois, il peut y avoir une chose. Des fois, c'est un mot qui me fait démarrer correctement. Enfin, mieux, on va dire, toujours.
C'est excellent ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais pas décider que tous les mots vont te faire démarrer comme ça? C'est-à-dire que le premier mot, par défaut, il va te faire démarrer comme ça.
Ça dépend du mot, ça dépend de la ponctuation.
Et moi, je dis que c'est toi qui décides. Par exemple, là, le premier truc, c'est transcription d'une communication radio. Donc, on va dire, écoute.
C'est compliqué.
Transcription d'une communication radio.
Transcription d'une communication radio.
Entre un bateau de la US Navy.
Entre un bateau de la US Navy.
Et les autorités canadiennes.
Et les autorités canadiennes.
Au large de Terre-Neuve.
Au large de Terre-Neuve.
Nickel.
J'essaie de faire trois séquences d'exercices, le matin, midi et le soir, où effectivement je me relis des phrases en voix chuchotée, puis en voix parlée, que ce soit dans le travail ou chercher le pain dans une boulangerie ou des trucs comme ça, des trucs très simples, des phrases très simples. Ben, je dis le bonjour madame, est-ce que je peux avoir un pain s'il vous plaît,
et
voilà.
Et bien souvent, c'est dans le bureau, dans le cabinet d'orthophonie, qu'elles vont révéler la voix la plus féminine. Et quelquefois, ça prend du temps avant de l'automatiser ailleurs. Comme si ici, il se passait des choses que pendant un temps, en tout cas, elles n'arrivent pas à reproduire à l'extérieur. Donc oui, il y a ce mimétisme, il y a cet effet de miroir qu'on utilise tous quand on apprend un nouveau geste. Et c'est vrai que moi, j'ajuste ma voix en fonction de ce que j'entends de la voix de la patiente. Quand on est par exemple dans un débit très rapide, dans une articulation un peu floue, je vais avoir tendance à ralentir mon débit et à rajouter un petit peu. Voilà, j'ajuste en fonction de ce que j'entends et de ce que je vois de la patiente.
Alors, des fois, effectivement, je m'enregistre avec mon ordinateur et un microphone, donc je fais des essais. Et pour regarder où j'en suis, pas uniquement je réécoute la bande sonore, je regarde un peu le spectre de fréquence, voir est-ce qu'il a été plus large, est-ce qu'on va plus vers les 20 kHz, voire au-dessus, et voilà, quoi, au niveau des harmoniques. C'est un repère.
Arte Radio. Point.
Mon objectif, il est là. Si j'arrive à m'enregistrer et à repasser ce que j'ai enregistré, il me pose la question, mais est-ce que c'est un garçon ou une fille qui a parlé? Pour moi, ça sera déjà mon objectif.
On continue toujours. Ah. Oh là là, il y a plein de problèmes. Voilà, c'est bon. On continue toujours, donc je disais, vous m'entendez encore là? Ouais, ça marche. Parce que quand on est tout seul, on fait croire qu'on est plusieurs, mais en fait on est tout seul et après on sait pas ce qui se passe. Donc on continue avec un extrait d'une autre émission qui s'appelle Stalingrad Connection. Stalingrad Connection, c'est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées. Et c'est une émission régulière qui est diffusée une fois par semaine, le lundi de 11h à midi, sur Fréquence Paris Pluriel. On peut donc l'écouter sur le site de Fréquence Paris Pluriel et sur le blog, l'audioblog sur Arte Radio. Et l'extrait qu'on va écouter, c'est l'extrait d'une émission qui a été diffusée il y a un an, l'émission numéro 43, sur le thème des femmes, avec notamment l'interview de deux femmes qui étaient militantes féministes dans leur pays d'origine. C'est la Syrie pour la première et, il me semble, l'Afghanistan pour la seconde. et qui racontent leur participation à la fois au mouvement féministe avant d'arriver en France et leur participation aux luttes de personnes migrantes une fois qu'elles étaient arrivées ici.
Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées. Pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بی‌جا شدگان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما می توانید هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراد کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. همچنان می توانین با فالو کردن پیج استالینگراد کانکشن در صفحه فیسبوک خود از تازه ترین اتفاقات روز و امور پناهجویان با خبر شوید.
استالینگراد کانکشن رادیو تشارکی و مفتوح للمهاجرین و لاجئین و طالبی لجوء للحصول على معلومات و اخبار و مشارکت التجارب. اثنين من الساعة 11 صباحا حتى منتصف النهار على التردد 106.3 FBB. تجدونا على الفيسبوك على صفحة استالينغراد كونكشن.
Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. Tune once a week on Monday from 11 a.m. to 12 p.m. on FPP 106.3. If you want to join the project or want to have some information regarding refugees, you can contact us on Facebook on the page Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection.
Aujourd'hui dans Stalingrad Connection, les femmes prennent la parole. Al-Yaoum Ma'ana à la Stalingrad Connection d'Our Lil Sayedet. Sur le plateau, deux femmes, journalistes, féministes, avec chacune une approche différente de la question et toutes les deux réfugiées en France depuis près d'un an. Al-Yaoum Ma'ana, Sayedatin, Sahafiyatin, féministe à Nesawiya, وبمستويات مختلفة وهما لجئت في فرنسا من حوالي سنة.
Ouraida est syrienne et a créé avec d'autres femmes syriennes de par le monde le mouvement politique des femmes syriennes.
Ouraida صحفية سورية وأسست مع مجموعة نساء سوريات حركة سياسية سورية نسوية.
En ce moment, elle joue dans une pièce de théâtre en langue arabe et sous-titrée sur les prisons de femmes syriennes, où chaque comédienne joue son propre rôle.
Alan, هي تمثل أيضا في مسرحية بالعربي مع ترجمة للفرنسي والموضوع عن المعتقلات السوريات في سجون النظام والممثلات بتمثيل دورهم.
Nous ferons ensuite la connaissance de Raïma, afghane, journaliste qui s'intéresse particulièrement au sort des femmes en Afghanistan.
هنتعرف بعدين على راهيما من أفغانستان وهي صحفية أيضا اللي تهتم بحالات النساء في أفغانستان.
Elle participe dans quelques jours à un événement sur le sujet au siège de l'UNESCO à Paris.
وهي تشارك أيضا في لقاء عن الموضوع في مقر اليونسكو في باريس.
L'entretien avec Ouraida sera traduit en arabe et Raïma, déjà bilingue, fera la traduction de ses propres réponses en dari. Bienvenue dans ce portrait croisé de deux femmes.
Stalingrad Connection.
Ouraida, bonjour.
Bonjour.
Donc ma première question porte sur le mouvement que tu as créé avec d'autres femmes syriennes il y a un mois à peu près. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est née l'idée et quel est le but de ce mouvement?
السؤال الأولى عن الحركة اللي أنت ومجموعة من الستات أسستو من حوالي شهر. ممكن تقولينا
الفكرة جيت منين وممكن تقولي أكثر عن الحركة؟
تمام. أهلا وسهلا فيكم وبكل اللي عم يسمعونا على الراديو. الحركة السياسية النسوية السورية تأسست بباريس الشهر الماضي، لكن مجموعة من النساء بيدعوا لها من عام 2013. هو يعني هي من متطلبات الوضع بسوريا. سوريا حاليا هي بمرحلة خلينا نقول هي حل سياسي بين المعارضة والنظام. في مؤتمرات عم تصير بجنيف هي للمفاوضات بين المعارضة والنظام. هاي المفاوضات خلال السنين الماضية ما عم يكون فيها نساء، عاملين الرجال هنا عم يكونوا بنسبة 95% أو 100% بكل المؤتمرات اللي بتمثل السوريين والسوريات. علشان هيك مجموعة من النساء السوريات قرروا يجتمعوا ويعملوا حركة ويقولوا للناس بأنه نحن موجودات وقادرين أنه نكون صوتكم، ليس صوت النساء السوريات فقط لكن صوت الشعب السوري. الحركة عمليا هي قائمة على أسس المواطنة المتساوية دون تمييز بين الشعب السوري.
L'idée nous est venue déjà en 2013 et on se rend compte que dans toutes les conférences pour demander des solutions politiques, par exemple il y en avait une récemment à Genève au conflit syrien, à chaque fois 95% ou 100% des participants sont des hommes, on ne voit pas de femmes. Alors nous avons voulu créer un mouvement pour dire aux gens que les femmes sont là et pour faire entendre notre voix, et bien sûr pas seulement la voix des femmes mais la voix de tout le peuple syrien.
Et d'où viennent ces femmes syriennes? Elles sont en Syrie, mais aussi dans d'autres pays du monde.
El Sayedet, elle est maraki fil haraka min Faransa ou min buldan okhra.
السيدات اللي معي نحن مجموعة من النساء السوريات الموجودات بسوريا بلبنان بتركيا بكندا أمريكا فرنسا ألمانيا تقريبا يعني بأغلب دول اللجوء.
Ces femmes sont syriennes et elles sont en ce moment dans tous les pays comme la Syrie et les pays qui sont majoritairement des pays d'accueil pour les réfugiés, l'Allemagne, le Liban, la Turquie, le Canada.
Et donc quelles sont vos revendications au mouvement, à ce mouvement politique des femmes syriennes?
Oui, Mahia El-Moutalabat.
المتطلبات أو الطلبات حاليا هي تنقسم لمراحل. في عنا متطلبات بالمرحلة الحالية وبمرحلة الانتقالية ولاحقا بمستقبل سوريا، لكن بشكل عام الحركة تأمل بمناصرة كل السوريين والسوريات المؤمنين بالتغيير الديمقراطي اللي ما بينفصل عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية بصفتها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
Alors nous avons des demandes qui concernent plusieurs phases, la phase de transition et la phase de l'avenir de la Syrie. Mais tout d'abord, nous voulons rassembler les Syriens qui sont convaincus de la nécessité d'un changement démocratique, lequel ne peut être séparé de l'égalité des genres, de l'égalité des femmes, qui est partie intégrante des droits de l'homme.
Donc vous avez des revendications à la fois de politique générale sur la Syrie, mais aussi des revendications proprement féministes.
Anduku talabet siyasiya, oui, anduku talabet nisoiya.
الطلبات السياسية متعددة، وهو نحن دائما بنربط بين السياسة والطلبات الجندرية. الطلبات السياسية هي التغيير الجذري لبنية النظام، ربط الانتقال السياسي بالمحاسبة والعدالة لتحقيق سلام شامل ومستدام. مرجعية المفاوضات هي بيان جنيف عام 2012، حماية المدنيين من جميع أشكال العنف والقصف والتهجير، والطلب المهم يلي نحن بنركز عليه إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والكشف عن مصير المختفين قسرا. طلبات انه يعني نحن دائما عنا انه الدستور بده يكون هو مكتوب وفق الجندر، يعني حتى يعني مثلا نحن لما بنحكي عن اعاده الاعمار بسوريا كمان بده تكون يعني تكتب، والمشاريع بده تراعي الجندر. فنحن هذا اللي نحن بنعمله، كل المشاريع اللي لها علاقه بالانتخابات بالدستور بالعداله الانتقاليه الحركه بتركز سياسيا وكيف هي بتنكتب وفق منظور جندري.
Alors, nous avons plusieurs demandes politiques qui concernent le changement de régime et bien sûr la justice. Nous voulons la protection des civils. Nous voulons aussi la libération des prisonniers et nous voulons savoir où sont passés les disparus. Nous sommes toujours entre les demandes politiques et les demandes spécifiquement de genre. Si on considère la constitution syrienne, on se rend compte qu'elle est faite de manière sexiste et nous voulons qu'à l'avenir, elle soit réécrite en prenant en compte les problématiques de genre.
Et comment est accueilli votre mouvement en Syrie et par les Syriens qui sont de par le monde réfugiés dans différents pays.
Mahwa istiqbal el fikra and el suriyin fi Syria ou fi el kharij.
عمليا هي الحركة لقت قبول جيد سواء في سوريا أو داخل سوريا حتى على مستوى المعارضة مثلا بعد غد يوجد مؤتمر للمعارضة هذا المؤتمر نفسه كان بالسابق كانت نسبة النساء قليلة جدا جدا لا تتجاوز 2% أو 3% حتى المؤتمر الماضي كان بدون وجود ولا امرأة المؤتمر اللي حيعقد بكرة 15% نساء يعني الحركة خلال هدول هي تأسست من شهر لكن عاملين هم عم يتحركوا أو عم يشتغلوا من أكثر من سنتين يعني خلال هاي السنتين قدرنا نرفع نسبة النساء من صفر لتقريبا 15%
Étant donné qu'il y a déjà des résultats, certes notre mouvement n'a lui-même qu'un mois, mais cela fait plus de 2 ans que l'idée germe. Et de 0% de représentation féminine dans les conférences, dans les rangs même de l'opposition syrienne, on est passé à 15% cette semaine, par exemple, à la conférence de l'opposition syrienne à Riyad le 23 novembre.
Et comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous vous réunissez? Et quels sont vos moyens d'action pour faire justement changer la constitution et faire porter vos idées?
Peut-être qu'à la moumarabarde, Izei, Aouté Ablou, Izei, ou Hal, elle. وسيلات اللي تستار ديمو عشان تغيروا الدستور او تشتغلوا على افكاركم
عمليا الحركه هي قسمت للجان يعني في لجنه اعلاميه لجنه الدراسات لجنه النشاطات في لجان اخرى كل لجنه بتجتمع مع بعضها ومسؤولة كل لجنة هم موجودين بمجموعة اسمها الأمانة العامة أو خليني أقول هي القيادة الحركة تمام نحن مجتمع عن طريق السكايب عن طريق وسائل التواصل المتاحة وإحنا مثلا متواجدات بفرنسا ممكن نلتقي المتواجدات ببرلين ممكن يلتقوا المتواجدات بسوريا أو بتركيا ممكن يلتقوا مع بعض لكن عملية اللقاءات هي سكايب أما بخصوص أنه كيف بتتم الدراسات والدستور أكيد هي ما بتكون ضمن اجتماعات في يعني عندنا لجنة الدراسات هي اللي بتقوم بالدراسات
Nous avons plusieurs comités, un comité média, un comité études, un comité pour organiser nos activités et puis d'autres. Nous travaillons tous ensemble sous la supervision de la direction. Pour nous réunir, nous utilisons souvent Skype, mais évidemment, les femmes qui sont dans un certain endroit peuvent se réunir, celles qui sont en France ensemble ou en Allemagne ensemble. Et en ce qui concerne la Constitution, c'est plutôt le comité des études qui s'occupe d'y penser.
D'accord. Et quels sont, c'était la deuxième partie de ma question, quels sont vos véritables moyens d'action pour faire porter vos idées et modifier la Constitution ? Ok.
وي على الأرض الواقع تستخدموا إيه عشان تدعموا أفكاركو وعشان الناس يفهموا أفكاركو وأهدافكو
عمليا نحن على تواصل مباشر مع الناس يعني أنا إلي علاقات اللي مع داخل سوريا وخارج سوريا والأخريات كمان هم على علاقة يعني نحن على صلة مباشرة مع النساء ومع كل مع السوريين الموجودين جوا فنحن بنقدر نتواصل من خلال علاقاتنا في عنا نحن لجنة العلاقات العامة هي بتقدر تتواصل مع الأمم المتحدة مع مكتب ديمستورا مع الخارجيات مثلا كان لنا تواصل من فترة مع الخارجية للسعودية علشان هلأ بيتم التحضير لمؤتمر الرياض. فيعني نحن بنقدر نتواصل من خلال يعني من خلال علاقاتنا ومن خلال الطرق المتبعة بالتواصل.
Les membres de notre comité de direction ont des contacts et parlent aux gens des Nations Unies, au ministère des Affaires étrangères de différents pays. Et quant à nous, nous sommes en contact avec des femmes ordinaires et nous leur parlons de nos idées.
D'accord.
Merci. Et Rouaïda, je voulais aussi te poser des questions sur la pièce de théâtre dans laquelle tu joues en ce moment, qui est en tournée, je crois. Je voulais savoir comment tu avais rencontré cette pièce, cette troupe de théâtre, et quel était le sujet de la pièce.
السؤال عن المسرحية. أنتي قابلتي الفريق إزاي وبدأتي تمثلي إزاي؟
المسرحية اسمها إكس عدرا. أنا التقيت بالمخرج أو حكيت مع المخرج من عام 2015، كانت هي فترة التحضيرات للمسرحية. المسرحية عرضت بالشهر الثاني بمنطقة بباريس اسمها فيغون. أنا ما كنت موجودة لكن كنت على تواصل دائما معهم. عرضت بالشهر الثامن بمغسي، أنا كنت موجودة فيها، وحتعرض بجنفيف بمولوز، ونحن الشهر القادم عنا إنه تدريبات وتحضيرات للمسرحية.
J'ai rencontré le metteur en scène en 2015 et j'étais donc au courant de cette pièce. Elle a été présentée en février en France, mais je n'étais pas là. Elle, par contre, à Marseille en août, j'y ai joué. Elle sera également jouée en janvier à Mulhouse. وما هو موضوع المسرحية؟
مسرحية هي اسمها إكس عدرا. عدرا هو اسم سجن بسوريا. عمليا أغلب السجينات والسجناء بيكونوا مسجونين بالأفرع الأمنية، يحولوا لاحقا على أغلبهم مش الكل، يحولوا لاحقا على سجن مدني اسمه سجن عدرا. المسرحية بتحكي عن المعتقلات في لدى أو في سجون النظام السوري، ونحن يعني نحن منمثل دورنا. يعني أنا كنت معتقلة، تميت معتقلة 10 أشهر، هو 3 مرات، آخر مرة هي 10 أشهر. فأنا عم مثل يعني عم أحكي عن إشياء صارت معي وأنا بالمعتقل.
Le nom de la pièce est X Adra, c'est le nom d'une prison en Syrie. Nous parlons donc du sort des prisonnières de cette prison et en fait nous parlons de notre propre vie. En ce qui me concerne, j'ai été emprisonnée 3 fois et la dernière fois c'était 10 mois.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous êtes toutes des femmes donc réfugiées syriennes qui jouaient dans cette pièce?
Kulluku lagi'in suriin wa bitamsilu dorku fil masrahiya.
تمام. نحن بالمسرحية 6 نساء أو لا 5 نساء ورجل. هو الرجل كانت بنت وصارت رجل، يعني ترانسجندر. كلنا لاجئات بين فرنسا وألمانيا، يعني 4 من فرنسا و2 موجودات بألمانيا.
Nous sommes 5 femmes et un homme transgenre. Nous sommes tous des réfugiés, 4 qui sont en France et 2 en Allemagne.
Et quel est le propos, quel est le but de cette pièce de théâtre?
وما هو هدف المسرحية؟
عمليا يعني الهدف هو نحن لما كنا بالمعتقل، يعني أنا حدا كنت بالمعتقل، كنت أتمنى كتير الناس تحكي شو عم يصير أو تعرف نحن حقيقة شو عم يصير داخل يعني داخل المعتقلات. والمسرحية هي بنقدر نقول إن هي بتوصل صوت السوريين أو السوريات الموجودين بالمعتقل لكل العالم، لأن إحنا حالياً عم نعرض بفرنسا، لكن العام القادم حنعرض ببلدان أخرى سواء بأوروبا أو يمكن أمريكا.
Quand nous étions en prison, nous voulions communiquer ce qui se passait en prison. Et cette pièce est un bon moyen et elle pourra peut-être, je l'espère, être jouée en Europe ou aux États-Unis également.
D'accord. Et quand est-ce qu'est la prochaine représentation?
Oui, emta el ard el qadem.
El ard el qadem haykon bi 9 janvier.
La prochaine représentation sera le 9 janvier à Mulhouse.
Donc, Roïda, on t'a demandé de choisir une chanson féministe à passer dans l'émission. Est-ce que tu peux nous présenter, nous raconter ce que dit cette chanson ?
طلبنا منك فكرة عن أغنية نسوية فممكن تقدمي الأغنية ولقيتي قررتي وليه انت اخترتي الأغنية
هي الأغنية جميلة لأنغام محمد علي هي مطربة مصرية هي بتقول له أنا نص الدنيا يا آدم معنى يعني أنا أعتقد أنه نحن كل الدنيا لكن أنه هي أغنية بتعبر عن حالة بأنه نحن موجودين نحن هنا
C'est une chanson qui est chantée par Anram, qui est égyptienne, et elle dit « Je suis la moitié du monde ». Et je pense qu'en fait, c'est la totalité du monde, mais c'est une belle chanson.
مش محسوس